L'observance des fêtes. Étude numéro 56. Cette étude traite du contexte de l'observance des fêtes de Lévitique chapitre 23, qui découle d'une compréhension du quatrième commandement. Le chapitre entier de Lévitique 23 est consacré aux fêtes qui se suivent dans le texte, et elles sont toutes étroitement reliées. L'autorité pour les fêtes est tirée des Écritures. D'abord, nous regarderons le quatrième commandement. Vous ne pouvez pas observer un commandement et ne pas en observer un autre. Le sabbat mène aux fêtes. Les fêtes commencent à partir du sabbat et avec lui. Et ce sont les fêtes de Dieu, non pas les fêtes des hommes. Voir l'étude de la loi et le quatrième commandement, numéro 256. Nous lisons dans Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Version 8 secondes. Le sabbat est une fête. Il est inapproprié de jeûner ou d'en faire un jour de deuil. Cependant, parfois, on n'a pas de choix, comme dans la prière spirituelle, et une préparation doit être faite le jour du sabbat. Nous sommes commandés de nous assembler. Nous ne pouvons pas l'observer seul à la maison. Voir l'étude de sabbat numéro 31. La même chose s'applique à toutes les autres fêtes. Toutes les fêtes sont des assemblées commandées et observées là où l'Éternel le choisit. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23, verset 4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Version 8 secondes. C'est la responsabilité d'Israël de proclamer et de déclarer ces fêtes aux gens et d'ordonner leur convocation. Ce n'est pas une question d'être laissé à soi-même. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23, verset 5 à 8, « Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Version 8 secondes. Cela continue avec la fête des pains sans levain. Aucun travail servile ne doit être fait. C'est une sainte convocation. Il y a une responsabilité de présenter une offrande par le feu à l'Éternel durant 7 jours. Le 7e jour est un jour de sainte convocation. Quand vous faites le total de toutes les offrandes par le feu, la somme représente un cycle de temps complet de 19. Nous devons toutes les observer pour compléter le cycle. Le nombre total de sacrifices offerts aux fêtes constitue un autre cycle. Celui-ci a un autre symbolisme qui est relié au gouvernement de Dieu, qui sera examiné ailleurs. Nous lisons dans Lévitique 23, à partir du verset 9 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. » Version 8 secondes. On ne peut pas être dispensé de ces préceptes. La raison de cette séquence qui débute à la Pâque est pour nous montrer qu'il y a une base sacrificielle et une moisson en cours, car toutes les fêtes ont rapport aux récoltes. Elle commence par Jésus-Christ, continue ensuite avec les élus et se termine avec la récolte générale des derniers jours. Toutes ces récoltes commencent avec le premier fruit et elles croissent en taille et en ampleur. Chacune est nécessaire pour développer la suivante. Il y a donc un processus entier de développement. Voir les études de la Pâque numéro 98, le dîner du Seigneur numéro 103, la soirée mémorable numéro 101, la signification du lavement des pieds numéro 99, la signification du pain et du vin numéro 100, l'offrande de la gerbe numéro 106b et la mort de l'agneau numéro 242. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23 versets 15 à 21. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, et vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur, à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Version Louis II. Ils sont cuits avec du levain. Nous sommes donc passés des pains sans levain au pain avec levain. Nous avons compté 50 jours. Nous sommes maintenant à la fête de la Pentecôte et nous offrons du levain. Ce levain est l'Esprit Saint qui opère dans les élus. La fête de la Pentecôte représente notre appel. C'est notre récolte. Elle continue durant les 2000 ans et ce jusqu'au temps de la fin. La Pâque représente Christ, la fête de la Pentecôte nous représente, et la fête suivante représente un autre ordre d'ampleur. Elle représente notre autorité, notre gouvernement avec la récolte et le salut des gens et de la planète. Voir l'étude de l'Esprit Saint numéro 117. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23 verset 22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Version Louis II. Des choses sont laissées pour les autres. Nous avons la responsabilité d'aider continuellement les gens à aller à la fête, de les fortifier et de leur donner de la nourriture. Il y a une signification spirituelle aussi bien que physique derrière tout cela. Nous devons leur donner les deux. Nous devons guider et aider les pauvres à assister à la fête et à grandir dans l'esprit. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23 versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Version Louis II. C'est la fête des trompettes. Il n'y a aucune mention d'une récolte ici. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Christ vient en tant que Messie pour nous sauver et pour établir son règne sur cette planète. Nous faisons partie de ce plan. Il n'y a aucune récolte aux trompettes. La moisson était à la fête de la Pentecôte et à partir de celle-ci. Voir l'étude des trompettes numéro 136. À la fête de la Pentecôte, nous sommes tous nommés et sortis du monde. S'il devait y avoir une récolte à la fête des trompettes, alors celle-ci n'aurait pas lieu avant que le Messie ne soit venu. Mais la récolte s'est produite avec le don de l'Esprit-Saint, non pas avec l'avènement du Messie en tant que roi d'Israël. C'est pourquoi nous n'avons aucune récolte et aucune offrande à la fête des trompettes. Il en est de même pour le jour des expiations. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23 versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Version 8 secondes. C'est à partir de ces versets que nous savons que les sabbats sont observés de soir à soir, soit de noirceur à l'autre noirceur, parce que le jour des expiations est un sabbat clé et central, tel qu'il est expliqué dans l'étude des expiations numéro 138. La seule chose à être prise le jour des expiations était l'impôt du recensement. Nous avons été dispensés de l'impôt du recensement quand le temple a été détruit. L'autorité du temple a été enlevée lors de l'ordination des 70. Le laps de temps de 40 ans était afin de donner à Juda une chance de se repentir. Ils ne se sont pas repentis et le temple a été détruit. Cet impôt du temple n'était aucunement une offrande. Il ne pouvait pas être considéré comme une offrande, dans le sens qu'une personne pouvait donner plus qu'une autre, parce qu'il y avait un prix fixe pour chaque homme. Tous y étaient comptés et devaient payer selon le recensement. Ce paiement a été fait par Christ. Christ réintroduira le temple et sa structure à Jérusalem quand il reviendra. Et il réintroduira probablement ses exigences administratives. Il semble que le but de cette institution est pour que les offrandes aident dans l'administration du temple. On pourrait imaginer qu'elle sera remplacée et que Christ la réintroduira. Nous sommes présentement le temple de Dieu, non pas à un emplacement fixe ni à Jérusalem. Il n'y a donc aucun impôt fixe maintenant. En effet, cela remet en question l'adéquation même du sacrifice du Messie. Ce n'est pas une offrande, et ce, sous aucune circonstance. Aucune offrande ne devrait être prise le jour des expiations, aucun homme plus qu'un autre. Le verset dit spécifiquement qu'on ne doit pas varier la somme. Elle doit être sous la forme d'un impôt seulement. Nous arrivons ensuite à la fête des tentes ou des tabernacles, la dernière période. Nous lisons dans Lévitique chapitre 23 à partir du verset 33 à 44. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. » Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, « Je suis l'Éternel votre Dieu. » C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Version 8 secondes. Entre parenthèses, comparez les études de la récolte numéro 139, la résurrection des morts numéro 143 et la cité de Dieu numéro 180. Nous ne pouvons supprimer aucune des fêtes. Elles font toutes partie de la loi en tant qu'extension du sabbat hebdomadaire. Les sacrifices sont payés à même un système de dîme qui est établi pour s'occuper de ces dispositions. Il existe un impôt spécial pour les offrandes du sabbat. C'est un autre impôt pour la dîme. Nous traiterons de cela plus tard. À notre connaissance, la question n'a pas été traitée durant ce siècle. Voir l'étude de prélèvement de la dîme numéro 161. Nous sommes parvenus au point où nous avons décrit le processus. Il y a un concept général d'être à la fête en tant qu'une assemblée commandée. Dieu a dit que nous devons y aller et vivre dans des tentes ou logements provisoires. Nous n'avons pas le choix. Chaque individu a une responsabilité d'assister au sabbat et aux fêtes. L'argument qui dit que l'individu fait partie du temple de Dieu par la participation de l'Esprit-Saint et n'a pas à être présent aux convocations fixées des fêtes montre une mauvaise compréhension des concepts impliqués. L'individu reçoit l'Esprit-Saint au baptême, et de là il devient une partie du temple de Dieu. Christ était notre exemple à tous. Christ a méticuleusement observé les lois et les fêtes qu'il a établies en tant que l'ange de l'Alliance au Sinaï. Ces fêtes sont mentionnées dans Matthieu, chapitre 26, versets 17 à 20, dans Luc, chapitre 2, versets 41 à 42, et Luc 22, verset 15. Les parents de Christ sont montés à Jérusalem pour observer la fête de la Pâque. Christ était là au temple, autant quand il était un jeune homme qu'un adulte. Voir Jean 2, versets 13 à 23, chapitre 5, verset 1, chapitre 7, verset 10, chapitre 10, verset 22. Christ a observé les lois qu'il a fixées, c'est-à-dire qu'il a observé sa propre loi. Les gens s'inquiètent souvent à propos de l'observance des fêtes. J'ai un travail, une maison, une famille et tout. Ces choses ne devraient pas interférer avec notre adoration. Dieu nous a donné un certain nombre de promesses en ce qui concerne la protection de nos propriétés. Christ a dit qu'il allait camper autour de ceux qui le craignent. Nous pouvons être soit effrayés de Dieu, soit effrayés de ce que les hommes peuvent faire. Nous ne pouvons pas être effrayés des deux. Si nous sommes effrayés de Dieu, nous obéirons à ses lois. Psaume 33, verset 18 dit « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour inlassable. » Dieu a donc fait la promesse qu'il veillera sur ceux qui le craignent et qui espèrent en lui. Psaume 34, verset 7 à 9 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Cet ange de l'Éternel est Jésus-Christ. Cette promesse qu'il campe autour et délivre est dans les psaumes. Nous lisons dans Psaume 34, verset 8 « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Version 8 secondes. Ce sont des promesses que l'Éternel a faites. Il mettra le messager ou l'ange de l'Éternel, le messager de son alliance, autour de nous, et il s'assurera que nous ne manquerons de rien. Nous ne perdrons pas nos moyens de subsistance ou les choses qui nous ont été données. La raison pour laquelle il a donné ces fêtes est qu'elles sont un signe des élus, une façon que son système peut être vu et compris. Elles sont une bannière qu'il nous a donnée. Nous lisons dans Psaume 60, verset 4. « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Version 8 secondes. Plus correctement, cela dit « pour l'élever à cause de la vérité ». Nous pouvons voir la vérité de l'Éternel dans la bannière qu'il nous a donnée. Cela est fait d'une façon importante aux fêtes. Nous comprenons que les trois fêtes principales sont la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes. Tous les mâles étaient exigés d'y assister. C'est une représentation de tous ceux qui étaient éligibles pour le service militaire et leur famille. Ainsi, l'exigence a été placée sur les mâles dans Exode 23, verset 17, Exode chapitre 34, verset 23, Deutéronome chapitre 16, verset 16, Psaume 42, verset 4, Psaume 122, verset 4, Ézéchiel 36, verset 38, Luc chapitre 2, verset 41, Jean chapitre 4, verset 45. Les étrangers avaient la permission d'assister à la fête, tel que noté dans Jean 12, verset 20 et Acte 2, verset 1 à 11. Cela signifie que le symbolisme de tout cela nous est donné, afin que nous sachions que la fête n'est pas une marque exclusive des élus. Nous sommes autorisés d'avoir des gens à la fête qui ne sont pas des membres baptisés du corps de Jésus-Christ. Ils peuvent participer au repas de la Pâque et au service de la gerbe agitée, mais ne peuvent pas participer au dîner du Seigneur. Si nous craignons Dieu, nous avons une bannière qui est établie par l'Éternel. Cette bannière nous est donnée pour que nous comprenions et pour que d'autres puissent comprendre qui nous sommes. Les femmes devaient assister à la fête, voir 1 Samuel chapitre 1 verset 3 verset 9, Luc chapitre 2 verset 41 et 42. Il ne s'agit pas d'un droit spécifique à un groupe de gens. La fête était endémique pour toute la race d'Israël, autant les hommes que les femmes et les étrangers qui résidaient dans ses portes. Par définition, cela s'étend aux élus en tant qu'Israël spirituel. L'Église du Nouveau Testament observait les fêtes, telles que c'est noté dans les activités de Paul, entre parenthèses, voir Actes chapitre 18, verset 21, Actes 19, verset 21, Actes 20, verset 6, verset 16, Actes 24, verset 11 et verset 17. Il n'y a aucun doute que l'Église du Nouveau Testament, sous les apôtres, observait les fêtes. Elles sont obligatoires et en force. La pénalité pour ne pas observer les fêtes est trouvée dans Zacharie 14, verset 16 à 19. Ceci est très important. Nous lisons dans Zacharie chapitre 14, verset 16 à 17. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. » Version Louis II. Nous parlons ici de ceux qui restent. Ces gens vont marcher contre Jérusalem et ils seront tous détruits. Tous les survivants monteront année après année pour adorer l'Éternel des armées et observer la fête des tentes. Voici le roi dont nous parlons, l'Éternel des armées. Si certaines familles de la terre ne montent pas pour adorer le roi, elles ne recevront aucune pluie. Nous lisons dans Zacharie chapitre 14, versets 18 à 19. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Version Louis II. Évidemment, il n'y aurait pas de place à Jérusalem pour toutes les nations du monde. C'est pourquoi seulement les émissaires y monteront. Il est évident aussi que la fête des tentes sera observée dans le monde entier. La punition pour ne pas observer la fête sera de mourir de faim. Nous aurons une sécheresse continuelle jusqu'à ce que nous observions la fête telle que c'est commandé. Ceci a une signification spirituelle. Si nous n'observons pas la fête, l'Esprit Saint ne sera pas augmenté en nous. Nous ne pourrions pas alors grandir dans l'esprit et ne recevrions jamais la nourriture et la subsistance. C'est pourquoi il est si important d'y aller pour recevoir la nourriture spirituelle et grandir dans l'amour les uns avec les autres. Si Christ va la réintroduire par la force sur une base mondiale durant le millénium, il est donc évident pour nous de l'observer sur la même base que la première Église l'a observée. En effet, cela est notre bannière d'observer les sabbats, tous les sabbats. Les promesses de base sont trouvées dans Exode chapitre 34, versets 21 à 24. Nous lisons dans Exode 34, versets 21 à 24. Tu travailleras six jours, et tu te reposeras le septième jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Trois fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, trois fois par an. Version 8 secondes. La promesse nous est donnée, et personne ne convoitera ton pays. C'est la protection divine, tandis que nous observons la fête. C'est la parole de Dieu. Les gens s'inquiètent des cambriolages. Le seul temps où nous avons eu un problème a été quand nous avons pris un jour supplémentaire après la fête, une année. Nous avons alors été victimes d'un cambriolage. C'est le seul temps où nous avons personnellement eu un problème, et ce cas a été utilisé à notre avantage de toute façon. Cela a été fait pour renforcer dans nos esprits la loi de la protection. Ceci était relié au temps correct de la fête. Les élus produisent le calendrier et déterminent les temps des fêtes. Le faire à travers les Juifs est incorrect. Voir l'étude Le calendrier de Dieu numéro 156. Un tel exemple a été la fête en 1990. La fête a été observée un jour en retard et elle a fini un jour en retard, entre parenthèses, à partir de l'observation de la lune, parce que le calendrier juif était erroné. Ainsi, le dernier grand jour de la fête n'était donc pas le dernier jour réel. Un membre a posé la question. Dieu honore-t-il le calendrier juif quand il est faux, d'après le calendrier lunaire tel que nous le comprenons? On lui a dit, vous aurez votre réponse demain. Nous prierons ce soir pour que l'Éternel nous révèle s'il honore la fête, si elle est observée la mauvaise journée. Le jour suivant, le dernier grand jour, comme nous nous sommes assis pour le service, il y a eu trois pannes de courant successives qui ont forcé l'ouverture des portes et le service à être interrompu. Le dernier jour a été marqué par des cambriolages, des accidents et d'autres problèmes. Cette personne avait un pouvoir énorme de témoigner, mais elle ne l'a pas compris ou a oublié. Mais le problème est arrivé afin que nous comprenions. On lui a dit, vous avez maintenant votre réponse. Il a répondu, c'est renversant. Nous avions notre réponse. La réponse était que l'Éternel ne bénissait pas un jour observé inexactement et que le calendrier juif est faux et contraire à la volonté de Dieu. Ce processus était reflété aussi dans l'attitude avec laquelle nous observions la fête. Quelques années plus tard, à la fête, un jeune homme a subi un cambriolage dans sa propriété. Il lui a été dit d'examiner sa spiritualité afin de voir pourquoi il a été cambriolé. La raison était qu'il retournait travailler afin de ne pas perdre son emploi. Il n'y avait aucune foi dans la promesse inconditionnelle faite par Dieu que personne ne désirerait sa propriété. Beaucoup d'entre nous ont dû renoncer à leur emploi pour obéir à Dieu, mais Dieu a toujours compensé. Nous ne serons pas dans le besoin si nous observons les lois de Dieu. Espérons que ce jeune homme a examiné l'attitude avec laquelle il observait la fête. Nous devons craindre Dieu plus que les hommes. Si nous craignons davantage les hommes, vous n'avez alors aucune foi. Cela est la somme totale, le concept que nous devons faire face et que l'adversaire nous lance tout ce qu'il peut avant la fête. Comme nous le savons tous, chacun est martelé ou testé avant la fête, jusqu'après le jour des expiations. C'est au jour des expiations que nous brisons les liens de la méchanceté et que l'opprimé sera libéré. Si nous n'avons pas observé le jour des expiations correctement, alors nous n'avons pas brisé les liens de la méchanceté correctement et nous souffrons davantage. Nous devons mettre Dieu en premier. Les gens demanderont de l'attention pour différentes raisons. Souvent, les familles exigent que les membres restent avec elles afin que ceux-ci ne puissent pas assister à la fête. La plupart de ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas comme s'ils se réveillent le matin et disent « Je vais délibérément ennuyer cette personne ». L'adversaire les incite à la haine. Ils feront tout. Nous avons vu des cas où les conférenciers d'université ont pressé les étudiants dû au fait qu'ils avaient besoin de prendre du temps pour pouvoir observer les fêtes. Ils deviendront fâchés et essayeront de nous repousser. Quelques-uns l'utiliseront comme une excuse pour nous blesser. Nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons traiter la fête comme une assemblée obligatoire et nous devons être là. Le fait que nous soyons là en obéissance à Dieu exaspère Satan, tout comme le fait que nous l'observions les bons jours. Satan a fait tout son possible pour nous empêcher d'obéir à Dieu. Il a incité Hillel II, en l'année 358 de l'ère courante, à publier un calendrier pour que nous ne puissions pas observer la fête les bons jours si nous suivons le calendrier juif. Les adhérents du calendrier juif n'observent pas les fêtes correctement, parce que plusieurs de leurs jours tombent à l'extérieur des bons jours, étant donné qu'ils accordent plus d'importance à leur tradition qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi Hillel a dit en parlant du calendrier, « Il restera jusqu'à l'arrivée du Messie. Le Messie ne l'honorera pas. Il rejettera le calendrier juif et le piétinera, parce qu'ils n'ont aucune autorité pour cela. » Ce qu'ils essaient de faire est de nous empêcher de fidèlement observer les lois de Dieu et d'interférer avec notre foi grâce aux traditions des hommes. Ce processus s'étend à toutes les questions de la législation civile qui est placée contre nous. Nous avons plus de liberté maintenant qu'à tout autre temps dans l'histoire de l'Église. Cependant, c'est un fardeau pour nous. Viendra un temps où il n'y aura plus de liberté. Ce temps sera un temps très grave. Nous devrions maintenant profiter de ce que nous avons pour faire tout ce que nous pouvons et être une bannière pour le plus de gens possible. Nous devrions apprécier notre compagnie des uns des autres dans l'amour et la bonté. Nous devrions donner à l'un et à l'autre des cadeaux spirituels et physiques pour que nous puissions nous développer en tant qu'une famille et connaître ce que cela signifie de se sacrifier l'un pour l'autre. Ce processus entier n'est pas relié autour de Jérusalem, ni autour d'emplacements spécifiques, mais là où Dieu a choisi de mettre sa main. Nous ne sommes pas à Jérusalem parce que toutes les nations ne pourraient pas être contenues dans cette cité, même si elles le voulaient. Cependant, les fêtes ne dépendent pas de l'existence du temple ou des tentes. Nous lisons dans Exode 33, versets 7 à 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait, et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Version Louis II. Nous parlons ici de la tente d'assignation. Elle a précédé le tabernacle. Elle est à l'extérieur du camp, parce que nous savons que le tabernacle était au centre du camp. Moïse avait l'habitude de prendre la tente et de l'installer à l'extérieur du camp. La présence de l'Éternel était avec cette tente. Chaque fois que Moïse allait à la tente d'assignation, tout le peuple se levait et se tenait à l'entrée de leur propre tente, entre parenthèses à la porte de la tente, et ils suivaient des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Tout le peuple, alors, adorait. Ainsi, l'Éternel parlait à Moïse comme un homme parle à un ami. Josué, le fils de Nun, n'entrait pas dans la tente. Tel que mentionné ci-dessus, la fête n'a pas un emplacement spécifique. Elle a lieu là où Dieu place son nom à travers son sacerdoce. À travers le pilier de nuée, Jésus-Christ établira son esprit dans cette région et bénira cette région pendant que nous serons là. Dieu demeure dans des tentes humaines à travers son Esprit Saint. Voir Jean 14, verset 3, verset 15 à 18, verset 23. Dieu habite maintenant en nous sur une base continuelle. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas à observer les fêtes dans des endroits spécifiques, où Dieu a placé sa main pour une sainte convocation. Cela n'élimine pas non plus le fait que nous ayons des choses spécifiques à faire. Le fait que nous soyons le temple de Dieu, voir 2 Corinthiens 6, verset 16, ne signifie pas que nous n'avons pas à observer la loi ou les sabbats. Ils sont tous reliés ensemble. Les gens disent, si nous n'avons pas à aller observer la fête des tentes, nous n'avons pas à observer le sabbat en tant que convocation sainte. Mais nous le devons. Christ a dit qu'il va tout réinstituer quand il reviendra et que si nous ne les observons pas, nous mourrons de faim. Cela ne signifie pas que vous pouvez rester à la maison et être excusé de ne pas observer tous ces jours. Nous allons à la fête pour fraterniser et pour entendre la parole de Dieu. Nous avons tous une responsabilité de faire notre part. Le fait que les études sont répandues maintenant dans le monde entier est une indication que la parole de Dieu ne revient pas vide, qu'il attend des choses de nous. Il n'est pas suffisant de dire « Oh, nous avons l'Esprit Saint et nous n'avons rien à faire », juste prononcer le nom de Jésus. C'est le même type de bavardage qui a eu lieu au concile de Chalcédoine, qui a supprimé le sabbat au concile de Laodicée en l'année 366 de la Corinthe et qui a commencé la pourriture au concile d'Elvira en l'année 300 de la Corinthe. Toutes ces choses ont été faites auparavant. Nous avons une obligation de faire de notre mieux, peu importe si nous sommes peu nombreux, tandis qu'il fait encore jour pour travailler. Le temps vient où personne ne pourra travailler. C'est la raison pour laquelle nous sommes organisés de la façon que nous le sommes. C'est pourquoi des bibliothèques de notre matériel ont été répandues à différents emplacements. Chacun de nous doit faire le maximum, tandis qu'il y a suffisamment de lumière pour faire le travail. Il y a des règles qui régissent notre préparation pour aller aux fêtes. Non seulement nous devons avoir la foi et la détermination de laisser notre travail et d'aller à la fête, mais nous devons aussi réaliser que nous avons une obligation financière, aussi bien que physique. C'est-à-dire que nous devrions nous préparer pour aller aux fêtes. Deutéronome, chapitre 12, versets 17 à 19, dit qu'il y a une règle pour l'utilisation de la deuxième dîme. Nous sommes obligés de mettre de côté une deuxième dîme pour notre présence aux fêtes. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 19. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mout et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Cela vous dit en somme que vous ne pouvez pas rester à la maison et faire ces choses. Nous devons être au fait pour consommer cette dîme et faire toutes offrandes. Il y a seulement 3 offrandes par an. Elles ne peuvent pas être faites à l'intérieur de notre ville, entre parenthèses, à l'exception de la 3e année du cycle sabbatique, la dîme de la 3e année. Les offrandes des fêtes doivent être données à l'extérieur. Nous sommes emprisonnés dans le monde et Dieu nous sort d'Égypte. Il nous emmène à la tente d'assignation et aux piliers de feu et de nuée. Il y a un symbolisme spirituel dans cela. L'Esprit de l'Éternel est là pour nous rappeler que nous sommes toujours en Égypte et dans le désert du péché, Sin, attendant l'arrivée de notre Maître. La structure de cette planète n'est pas celle de Jésus-Christ. L'argument de l'Église dominante est qu'ils sont le royaume de Dieu, mais c'est un mensonge. S'ils étaient le royaume de Dieu, l'organisation de notre Maître, ils feraient ce que notre Maître demande, mais ils ne le font pas. Donc, nous sommes obligés d'aller à l'extérieur. Quiconque dit « Donnez-moi vos offrandes, vous pouvez rester à la maison pour le faire » n'a pas lu la Bible. Nous lisons dans Deutéronome 16, verset 16 « 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Version du second. Il doit y avoir 3 offrandes par an. Les dîmes sont consommées à l'extérieur de nos villes. Logiquement, cela inclut la fête de la Pentecôte, voire Deutéronome 12, versets 10 à 21. L'éloignement permet la consommation de la dîme dans les villes, mais seulement pour ceux qui restent. Voire Deutéronome 12, verset 21. Comparez l'étude Deutéronome chapitre 12, versets 17 à 28, numéro 284. C'est une autre raison pour laquelle il n'y a aucune offrande à la fête des trompettes ni le jour des expiations. C'est parce que ces jours reflètent le concept que nous sommes toujours en Égypte. quand Dieu envoie le Messie et nous réconcilie ensuite. Ce n'est pas notre action. Les fêtes sont aussi orientées vers les familles, soit nationalement orientées. Dans ce système, nous sommes appelés durant les trois récoltes et les offrandes faites pour celles-ci sont notre responsabilité. Nous devons nous préparer et nous ne pouvons pas y aller les mains vides. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 12, verset 19 « Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. » Version 8 secondes. Les Lévites n'avaient pas de propriété et il en sera ainsi durant le millénium. Cette loi est là pour que l'on s'occupe de ces gens et qu'ils puissent manger. Ils ont été chassés d'Israël parce qu'Israël est devenu idolâtre. Israël ne s'est pas réveillé un matin et n'a pas décidé soudainement de devenir idolâtre. Les Lévites ont permis au peuple de devenir idolâtre en enseignant de fausses doctrines et en disant des choses agréables. Le résultat final a été qu'ils ont été supprimés parce qu'ils sont devenus superflus. Nous ne pouvons pas dire des choses agréables ou demeurer silencieux tandis que l'idolâtrie s'installe parmi le peuple de Dieu et nous attendre à obtenir un emploi à la fin. C'est la loi. Si nous échouons, nous serons punis. Si nous nous dérobons, comme Jean-Marc, Dieu s'occupera de nous, à moins que nous ne nous repentions et revenions à Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Ce processus entier fait partie de la responsabilité de la préparation. Chaque personne a la responsabilité de se préparer, d'être là et d'être bien organisé avec les moyens qui lui sont donnés. Si nous n'avons pas les moyens, demandons et nous recevrons. Les paroles de Dieu ne tomberont pas par terre. Nous avons une obligation. Si nous sommes dans une organisation apostate, nous avons l'obligation d'aller là où Dieu a placé son nom et nous avons l'obligation de nous préparer pour la vérité. La marque des élus est la vérité. Nous ne pouvons pas être indifférents à la vérité. Si nous le sommes, nous n'avons pas assez d'Esprit Saint pour nous emmener dans le royaume de Dieu. Durant la fête, le fruit de l'Esprit Saint est l'amour. Cela est la marque de la conduite des élus. Il devrait être évident à tous à la fête que l'amour est notre sceau, notre fruit. On ne devrait pas avoir besoin de se faire dire ou demander. Nous devrions visiblement nous soucier les uns des autres et montrer les fruits de l'Esprit Saint. La plupart d'entre nous l'ont fait dans le passé. Il est possible de dire avec qui l'Esprit Saint travaille parce qu'il y a quelque chose à propos de ce qu'ils font. Les gens qui nous voient à la fête devraient constater que nous nous aimons les uns les autres et être impressionnés par la façon dont nous nous occupons les uns des autres. Ce n'est pas important combien nous sommes ou quel est notre impact. C'est ce que nous faisons ensemble qui montre aux gens ce que nous sommes. Ceci concerne le concept de l'esprit d'amour faisant partie du système millénaire. Car quand le Messie établira le système millénaire, le sceau sera la justice et la droiture, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Elles seront accompagnées par les fruits de la justice et de la droiture, sous la structure gouvernante du système du jubilé de la terre. Le monde verra l'amour couler à flot partout et le monde entier connaîtra la paix. Ainsi, la fête dépeint donc ce que nous sommes, comment nous pensons et comment nous agissons. Fin de la lecture de l'étude d'observance des fêtes, étude numéro 56.